Aujourd'hui à l'émission Un temps pour parler, l'abbé Denis Veilleux reçoit Mgr Michel Aupetit, archevêque émérite de Paris et auteur. Ce premier de deux entretiens s'intitule « Comprendre et distinguer ».
J'ai la joie de rencontrer aujourd'hui l'archevêque émérite de Paris, Mgr Michel Aupetit. Il a écrit un livre, Paternité et cléricalisme, aux éditions Artege. C'est tout nouveau. Il faut repenser la relation entre laïc et prêtre. Bonjour, Michel Aupetit.
Bonjour, Père.
Vous allez bien?
Bonjour à tous. Oui, très bien, je vous remercie.
Oui. Comment ça vous fait que je vous appelle Michel comme ça?
Eh bien, parce que finalement, c'est la seule chose qui compte, puisque c'est ce nom qui m'a valu mon baptême.
Oui.
Et donc, la seule chose qui fasse que je suis digne, c'est d'avoir été baptisé, c'est-à-dire fils de Dieu, comme chacun des baptisés, fille et fille de Dieu. C'est ça la dignité suprême. Après, c'est vrai que je dis souvent, en blaguant, que si j'arrivais au ciel et que je frappe à la porte et que Jésus vienne m'ouvrir, si je lui demandais de m'appeler mon Seigneur, je pense que ça se passerait pas très bien. Voilà, c'est tout. Mais donc restons simples et peut-être partons à l'essentiel.
Parfois, je vous appellerai mon Seigneur Aupetit, une autre fois Michel. Une première question qui vous surprendra sans vous confondre. La parole de Dieu est comme un glaive à deux tranchants. Hébreux. Chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu émaille votre livre. Vous pouvez commenter cette parole.
La parole de Dieu comme un glaive à double tranchant, c'est à plusieurs reprises. La question, c'est que tout ce que nous avons relève de cette parole de Dieu. Le Verbe de Dieu s'est fait chair. Certes, il est venu au milieu de nous. Ce qu'il a laissé parmi nous, c'est la parole qu'il a laissée. Ce qui est aujourd'hui consigné dans les évangiles. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, pour être fidèle à cette présence du Christ, eh bien, c'est cette parole de Dieu sur laquelle nous nous appuyons. Bien sûr, les évangiles, les paroles qu'il a pu prononcer lui-même, mais également tout ce qui a été considéré par l'Église comme venant de Dieu, par les prophètes. Et donc, voilà, je ne vois pas très bien comment on pourrait argumenter sans s'appuyer fondamentalement sur la parole de Dieu, sinon ça risque d'être une interprétation personnelle ou des pensées personnelles qui dérivent facilement vers l'idéologie. En s'appuyant toujours sur la parole de Dieu, on revient à l'essentiel. Jésus nous a laissé des mots, il est le Verbe de Dieu, bien sûr. Le Logos, le Verbe de Dieu, n'est pas enfermé dans les mots humains, bien entendu. Mais il nous a laissé ces mots-là, puisqu'il s'est fait chair, puisqu'il s'est incarné. Il a utilisé aussi notre langage, et c'est ce langage sur lequel j'essaie de m'appuyer.
En quoi elle est tranchante ?
Elle est tranchante, eh bien parce que quelque part, elle pénètre à l'intérieur de nous-mêmes. Vous savez, le glaive qui a percé le cœur de Jésus, il a percé le cœur de Jésus pour laisser passer l'eau et le sang. Traditionnellement, on dit c'est le baptême et l'Eucharistie, bien entendu. Mais en bas, au pied de la croix, il y avait Marie. Donc aussi, le cœur a été transpercé, comme l'avait dit le vieillard Siméon. Mais vous voyez, justement, c'est ça. Le cœur de Jésus a été transpercé pour laisser passer la grâce. Le cœur de Marie a été transpercé pour la recevoir. Et c'est un peu comme ça que nous-mêmes, nous sommes transpercés. Le Christ s'est laissé transpercer, justement, pour que sa parole et sa grâce pénètrent en nous par un cœur transpercé, capable de le recevoir, comme nous l'a montré la Vierge au pied de la croix.
Dans votre livre, vous écrivez sur l'identité du prêtre catholique dans notre aujourd'hui. Le vocabulaire qui tourne autour n'est-il pas un piège avec ses écueils ?
Alors, oui, c'est ça. Quelquefois, on dit que le prêtre est un autre Christ. Alors, en fait, il est configuré au Christ, mais il n'est pas un autre Christ. Enfin, on dit ipse Christus, mais ça ne veut pas dire qu'il se substitue au Christ. Et c'est là où peut être le danger, qu'on se prenne pour le Christ. Alors, bien sûr, ce n'est pas le cas. Néanmoins, si on n'est pas précis sur les termes, il faut quand même avoir conscience que le prêtre est configuré au Christ, c'est-à-dire, quand il est diacre, configuré au Christ serviteur, je suis venu au milieu de vous comme celui qui sert. Je suis venu pour servir et non pas pour être servi. Et il lave les pieds de ses disciples le jour de la Sainte Cène. Donc, clairement, nous sommes configurés au Christ comme serviteurs. Après, nous sommes configurés au Christ comme prêtre, c'est-à-dire celui qui fait le lien entre le ciel et la terre. Mais seul le Christ est le grand prêtre, puisqu'il est vrai Dieu, vrai homme. Il est seul à faire le lien entre le ciel et la terre. Et nous, nous sommes configurés par les dons qui nous sont faits, notamment par l'Eucharistie, mais pas seulement par l'Eucharistie, mais les sacrements qui nous sont donnés. Nous permettons à cette grâce du ciel de venir sur la terre et donc à être configurés au Christ prêtre. Ensuite, configuré au Christ bon pasteur en tant qu'évêque, c'est-à-dire qu'on veille sur le troupeau qui nous est confié. Voilà un peu comment configurer. Mais configurer ne veut pas dire qu'on se substitue. Et je cite à un moment le théologien jésuite Albert Chapelle qui dit justement, c'est dans l'impuissance que le prêtre peut véritablement être une persona Christi. C'est parce qu'il se sait impuissant, parce qu'il se pense impuissant que le Christ peut s'emparer de lui, de sa voix, pour dire lui-même, le Christ, ceci est mon corps, ceci est mon sang, ou je te pardonne. Sinon, le prêtre devrait dire, le Christ te pardonne, ou bien, voici le corps du Christ. Non, ceci est mon corps. Donc, c'est bien le Christ qui, en lui, mais parce que, justement, il est assez conscient de son impuissance pour laisser passer la grâce. Et donc, il faut faire attention de ne pas prendre la place du Christ en tant qu'une autorité qui nous serait confiée sur les autres. Non, ce n'est pas cela. C'est quelque chose qui appartient à l'effacement total devant la présence du Christ.
Vous soulignez des mots très simples. Là, vous donnez quelque chose de très fondamental comme distinction. Mais le cher Père, par mon Seigneur, ces mots-là, sont-ils des pièges?
Ah oui, bah alors il y a cher Père ou Monsieur l'Abbé. Maintenant, c'est la mode, c'est plutôt Monsieur l'Abbé chez les jeunes prêtres. Mais c'est la même chose, hein, puisque Abbé, ça vient de Père. Donc, c'est bien cette paternité. Mais de quelle paternité s'agit-il? Nous ne sommes pas des géniteurs, que je sache. Et puisque nous ne sommes pas des géniteurs, en quoi pouvons-nous être Père? Ensuite, cette paternité vient d'où? C'est ça ma réflexion. Parce que ma réflexion, depuis un moment, c'était cette question, on nous appelle Père, mais Jésus a dit, ne vous faites pas appeler Père. Et donc, quand même, ça m'a posé une question, et ça me pose une question. Donc, j'ai essayé de résoudre cette question-là. Comment, effectivement, nous pouvons nous laisser appeler Père? Alors, en réfléchissant, j'ai regardé Jésus, parce que c'est toujours Jésus qu'il faut regarder. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il nous révèle le Père. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Autrement dit, si nous sommes configurés au Christ, c'est pour faire connaître la paternité de Dieu. Et nous ne sommes pas Père en tant que nous-mêmes nous sommes Père, nous sommes ceux qui révèlent la paternité de Dieu. Et voilà pourquoi ce mot Père a, non pas sinon une légitimité, mais au moins le sens profond de ce que veut dire cette paternité du prêtre, qui n'est simplement comme le Christ, le Fils, auquel nous sommes configurés, de révéler la paternité de Dieu.
Monseigneur Petit, vous nous présentez comme un court-métrage fort intéressant des systèmes d'abord matriarcal et cette évolution vers le patriarcal de la nuit des temps à aujourd'hui. C'est très instructif. Je voudrais vous entendre.
Alors, oui, ben ça, j'ai puisé ça chez les historiens, j'ai regardé un petit peu les origines de l'homme, etc., et il semblerait, notamment dans l'histoire de la sexualité dans l'humanité, par Michel Rouche, l'historien, qu'au départ, c'était des sociétés matriarcales, centrées autour de la mère, et il n'y avait pas de figure paternelle au sens où on l'entend, c'était des géniteurs successifs, une sorte de polyandrie, si vous voulez. Et sociétés matriarcales étaient fondées autour de la mère avec des pères différents, enfin des géniteurs différents, donc constituaient des groupes de 30 à 40 personnes qui dans lesquels pouvaient générer justement une grande jalousie. On sait que la fraternité engendre des jalousies, pas seulement la première avec Caïn et Abel, mais déjà aussi avec les fils d'Israël, Jacob, avec Joseph, et puis on voit bien même au aujourd'hui, dans notre temps contemporain, comment, au moment de l'héritage, on voit que les vieilles rancunes, les vieilles jalousies de l'enfance ressortent. Et donc, la fraternité n'est pas quelque chose d'évident. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ces sociétés étaient assez violentes, extrêmement violentes, semble-t-il. Mais il faut une figure masculine. Or, la figure masculine était représentée par l'oncle maternel. L'oncle maternel, d'ailleurs notre mot « oncle » vient du latin « avinculus ».« Avinculus », c'est l'oncle maternel. En Afrique, on a aussi cet exemple, l'oncle maternel s'appelle le petit-grand-père. Et donc, voyez, une figure masculine. Dans la Tanis Tree, en Irlande, c'est pareil, c'est l'oncle maternel. La figure masculine n'est pas représentée par le géniteur, mais par l'oncle maternel, le frère de la mère, qui assure cette figure masculine. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les descendants, c'est pas de père à fils, vous voyez, la transmission, c'est de frère à frère. Et c'est pour ça d'ailleurs que même en France, après le christianisme, les fils de Clotilde et de Clovis se feront la guerre justement, non pas parce qu'on ne voulait pas que le fils du premier, le petit-fils de Clotilde, donc, n'hérite pas de son père, mais c'est les frères qui ont été tués leur neveu pour assurer cette succession par le frère. Et on voit ça d'ailleurs aussi dans les évangiles, quand on vient interroger Jésus pour le mettre à mal. Voilà, un homme épouse une femme, etc., et il meurt, cette femme doit épouser le frère, etc. Donc on voit cette succession par le frère, et non plus la succession de père en fils. Et donc, voyez, ces traditions-là, ce sont des traditions qui remontent au matriarcat. Puis peu à peu, le patriarcat s'est installé pour différentes raisons, sans doute par la sédentarisation, sans doute par l'invention des villes, etc. Et puis par le fait pour lutter aussi contre ces violences de tribus itinérantes qui pouvaient se faire la guerre. Donc voilà, la figure masculine est apparue et il semble qu'elle ait été possible, dans l'esprit, au moins juridiquement, par l'interdit d'adultère. Qu'on retrouve aussi bien dans les lois des douze tables romaines que dans les lois de Gortyme chez les Grecs, que, évidemment, vous le savez bien aussi, dans la Bible, tu ne commettras pas l'adultère. Le fait que l'interdit de l'adultère permet de faire émerger la figure du père, puisqu'il est justifié. On sait que puisqu'il y a l'interdit de l'adultère, il est vraiment père. Même si ce n'est pas le cas, au moins juridiquement il l'est. Donc vous voyez, émerge cette figure paternelle dans les sociétés humaines. Après, c'est la figure de Dieu comme père, ça c'est autre chose. Mais d'abord, la figure du père, de la paternité, telle que nous la comprenons, eh bien, elle émerge à ce moment-là avec la responsabilité du père de nourrir sa famille, de l'accompagner, de la faire grandir. D'où faire grandir l'autorité paternelle. Autorité, c'est auctoritas, ça vient de ogeo, faire grandir, c'est-à-dire non pas une autorité coercitive, mais une croissance de la personne dont on est responsable.
Permettez de vous redemander de m'expliquer que d'abord, c'est une société matriarcale qui va s'imposer. Oui. Et ensuite, on avance, on évolue vers une société patriarcale. Parce que ce que vous dites de l'oncle maternel et des frères, on est encore avec des hommes. Où sont les femmes ?
Ah ben si, la figure de la mère est essentielle justement. Mais le rapport des enfants à la mère, c'est un rapport de type fusionnel. Le rôle du père justement, c'est celui, d'après les psychologues, qui introduit une distance entre la mère et l'enfant. L'enfant, on le voit bien quand il naît, la mère s'en occupe, elle l'allait, elle s'en occupe, etc. Et donc il y a un rapport de communion fusionnel, un rapport fusionnel plutôt que communionnel plutôt. Et donc le père, comme une figure tierce, est présente et responsable de l'enfant, fait une mise à distance entre la mère et l'enfant. Mais quand il n'y a que la mère, le rapport fusionnel est très important. Et donc, non, la mère est même le rôle central, etc. La figure masculine, pas la figure paternelle, la figure masculine, parce qu'il en faut bien une, était représentée par l'oncle maternel. Mais c'est bien la mère qui est au centre de tout. Et qui décide pour ses enfants. Et qui décide pour ses enfants.
Oui.
C'est pas l'oncle maternel qui décide, c'est la mère qui décide. Alors, il semble que construire le système patriarcal où l'adultère et l'inceste deviennent des pratiques interdites, cela veut dire que ça a mis très longtemps. Le passage du matriarcat au patriarcat a été très long. La fondation des cités, la création du droit écrit vont modifier la perception de la parentalité. Le droit écrit, avant, c'était pas un droit écrit, c'était un droit oral. Les premières lois, Ipi Tishtar, etc., ou le code d'Amourabi, va induire un code du roi Amourabi. C'est un roi, donc une figure, effectivement, qui a été là masculine et qui garantit, justement, une sorte de paternité, entre guillemets. Alors, évidemment, faut pas représenter les rois d'une nation comme aujourd'hui. C'est plutôt un roi, c'est sur une cité ou une chose comme ça. Donc, Hammurabi, on connaît bien, mais c'est important. Comment la première loi écrite, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai écrit cette loi, se dit le roi d'Hammurabi, j'ai écrit cette loi pour sortir de la loi du plus fort. C'est-à-dire de la loi de la jungle. Nous sommes jusqu'à présent dans la loi du plus fort. Et voilà pourquoi les sociétés sont violentes. Un droit écrit permet de défendre les plus faibles contre les plus forts. C'est ce qu'a voulu le roi, le fameux code d'Hammurabi, qui est un des premiers textes écrits que nous ayons.
Oui. Michel Houpetit, vous évoquez comment il fut difficile pour l'Église chrétienne de proposer son enseignement sur le mariage. En quoi?
Eh bien, parce que c'était pas dans la mentalité, justement. Le patriarcat, c'était, et puis, dans cette société quand même essentiellement romaine, quand le christianisme est né, c'est la société romaine. Alors, la société romaine s'appuie sur, effectivement, le consentement mutuel, certes, mais ce qui n'est pas du tout dans les mentalités, c'est que ce soit un mariage d'amour. Et c'est un mariage patrimonial, essentiellement. C'est-à-dire que pour la préservation des biens, en particulier, évidemment, chez les riches. Et le christianisme a très bien marché dans sa mentalité chez les pauvres, chez les serfs, chez les esclaves. Au Moyen-Âge, c'est eux qui se mariaient par amour. Les autres, dans les sociétés, les grandes sociétés, les marquis, etc., se mariaient par intérêt ou pour des raisons patrimoniales. Donc la question du mariage amoureux par consentement, c'est-à-dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, ce qui signifie le mariage. Homme et femme, il les créa à son image, c'est-à-dire que cette communion se réalise dans un don personnel de soi total et absolu. Et donc c'est ça le mariage chrétien, normalement, dans l'idée. Eh bien, l'homme dit, vous voyez, quand on est à la mairie, c'est à la mairie en France, tout ça, le maire dit, voulez-vous prendre pour époux? Voulez-vous prendre pour épouse? À l'église, on dit, le prêtre ne dit rien, il écoute, il est témoin. Il est témoin de quoi? Je te reçois comme épouse. Vous voyez, entre prendre et recevoir, il y a une différence majeure. Eh bien, je crois que toute la conversion du mariage consiste à retourner la main, vous voyez, ça s'appelle de passer de la pronation à la supination, c'est-à-dire au lieu de prendre, on reçoit. Et donc, d'abord, pour recevoir, il faut se donner. Donc, le véritable mariage, le sens du mariage chrétien, tel qu'il a toujours été voulu, c'est ça. C'est comment, justement, on arrive à comprendre que ce mariage, c'est un mariage d'amour au sens où je me donne à toi, je me donne tout entier, je te donne pas mes biens, je te donne pas mon argent, ma voiture, etc. Je me donne à toi. Et ce don mutuel a été entendu, si j'ose dire, dans l'Église chrétienne, d'abord chez les pauvres, parce qu'eux n'avaient rien à protéger de leurs biens. Et leurs biens, c'était leur vie et leur personne, donc on peut donner sa vie. Mais quand on a des biens, c'est plus difficile de donner sa vie. Voilà pourquoi ce message chrétien a eu beaucoup, beaucoup de mal à passer. Il y a vraiment qu'au fin du 19e siècle, début du 20e siècle, que la généralisation de cette compréhension de ce qu'est le mariage chrétien est passée véritablement.
C'est très émouvant de vous entendre, parce que c'est l'amour. C'est l'amour qui est premier. C'est très, très émouvant d'entendre ce que vous dites. Souligner également la distinction entre le pouvoir qui semble dédié au roi et l'autorité envers les pasteurs de l'Église. En quoi se distingue-t-il?
Ah ben c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un pape. Vous savez, c'est le pape Gélase au 5e siècle.
Merci pape Gélase.
Oui, au 5e siècle qui a fait la distinction entre potestas et auctoritas. Potestas, c'est le pouvoir qu'il attribue au roi. c'est-à-dire le pouvoir de décision ultime. Et l'autorité, c'est pour justement le pontife. Et le pontife, lui, il a l'autorité, pas le pouvoir. L'autorité, ça vient de, comme je le disais tout à l'heure, auctoritas, ogeo, ça c'est Grégoire le Grand qui le précise, et justement pour faire grandir, pas pour écraser. Et voyez, je pense qu'il faut qu'on reprenne ça, nos conflits de pouvoir un peu ridicules, qui sont souvent d'ailleurs une frustration personnelle, qui est compensée, un besoin de reconnaissance. Non, l'autorité, un véritable père n'a pas besoin de reconnaissance, il a besoin d'aimer son enfant et d'être aimé de lui, et donc de le faire grandir dans sa vocation ultime, qui sera pour nous chrétiens la vocation à l'amour. Et donc, faire grandir, c'est aussi le rôle du prêtre, c'est aussi le rôle de l'évêque, c'est le rôle de tout le monde, c'est le rôle des parents aussi, qui sont les premiers responsables de l'éducation de leur enfant. Non pas pour qu'il réussisse, c'est-à-dire, comme le disait Jacques Brel, il sera pharmacien parce que papa ne l'était pas, c'est-à-dire combler les frustrations de son père. Non, il s'agit véritablement de grandir dans sa personnalité et de respecter le déploiement de sa personnalité indépendamment du choix des parents. Des fois, je me disais, oh, une anecdote, ça va faire rire les gens.
Oui.
Quand j'étais médecin, un jour, il y a une dame qui vient me voir, toute contente. « Ah, docteur, j'ai enceinte, etc. On s'est arrangé pour qu'il naisse fin décembre. » Ah bon ? J'ai dit, ah bon, mais pourquoi, madame ? Eh bien, parce que comme ça, vous comprenez, en fin décembre, il va gagner une année. Quand il fera son école préparatoire pour faire une grande école, comme ça, il aura gagné un an. Oh, j'ai dit, j'ai pensé, évidemment, à l'intérieur de moi-même. Je me suis abstenu de faire des remarques. J'ai dit, oh Seigneur, merci d'avoir inventé l'adolescence. À 15 ans, il cessera de pousser les cheveux, il jouera de la guitare et le projet de ses parents tombera à l'eau. Amen. Donc, non, mais c'était pour rire un peu. Mais enfin, quand même, c'est fou, hein.
Oui.
On prépare. Ça, c'est pas l'autorité, ça.
C'est le calcul.
Ça, c'est le pouvoir. Et l'autorité, c'est d'accueillir l'enfant tel qu'il est et de lui permettre de déployer toutes ses potentialités. Et voilà ce que c'est l'autorité.
La parole de la Bible fait voir un élargissement de la paternité au masculin et au féminin en y ajoutant la miséricorde. Comment ?
Alors ça, oui, mais comment Dieu est apparu comme père ? Au départ, dans la Bible, je vois pas que Dieu soit père. Hein. Non, il est le Dieu des pères. Il est Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, il n'est pas père. Il est le Dieu des pères. Et peu à peu, Dieu va se révéler autrement. À plusieurs reprises, notamment sans doute à partir du prophète Osée au 8e siècle avant Jésus-Christ, il va dire « J'ai appelé Israël mon fils ». Et là, le peuple va prendre conscience que Dieu n'est pas seulement le Dieu des pères, mais qu'il est notre père, qu'il est le Dieu du peuple d'Israël. Et donc, dans les psaumes, va commencer à apparaître cette figure de la paternité de Dieu. Et donc, voilà. Donc, c'est intéressant de voir ça. Alors, qu'est-ce que c'est la paternité, hein ? Pour Dieu, c'est compliqué, parce que nous projetons toujours ce que nous connaissons. Moi, je connais un garçon, c'est vrai, il était dans la rue. Aujourd'hui, il est père, c'est-à-dire il est prêtre. Oui, enfin bon, encore une de mes folies, mais elle n'empêche que c'est un très bon prêtre. Enfin voilà, donc ce garçon, à 7 ans, quand il est rentré de l'école, il a vu son père tuer sa mère. Sa mère baignait dans un bain de sang, son père avec un couteau, donc... Quand il a eu 25 ans, il s'est retrouvé dans la rue, quelque part sur une place d'une grande ville française, qui n'est pas Paris. Et un jour, un curé passe, le curé de l'église d'à côté, et il lui dit « Est-ce que vous voulez prendre un café ?» Alors, oui, bien sûr, il va prendre un café, hein, ça permet de réchauffer. Hein. Et puis, le curé commence à expliquer, voyez, pour nous, ben, Dieu, voilà, c'est une église, nous croyons en Dieu. Ben, il écoute gentiment parce qu'il voulait son café. Hein. Et puis, à un moment, le prêtre lui dit, mais vous voyez, Dieu, pour nous, c'est comme un père. Et il m'a dit, quand il m'a dit ça, j'ai failli lui casser la figure. Pour moi, mon père, c'est un assassin. Alors, si Dieu est père, c'est un assassin. Donc, vous voyez, il ne faut pas projeter ce que nous connaissons des pères, parce que j'ai entendu des gens, mais mon père, moi, m'a jamais aimé, mon père m'a maltraité, etc. Si Dieu est père, non. C'est bien l'inverse. Comment Dieu est père ? C'est pas nos projections personnelles. Moi, j'ai de la chance d'avoir eu un père aimant et généreux, mais ceux qui n'ont pas eu, c'est pas comme ça. Il faut pas projeter ce que nous avons connu de nos expériences personnelles, les projeter sur Dieu. Non, Dieu est père. Et donc, c'est à partir de ça. Qu'est-ce que ça veut dire la paternité de Dieu ? Alors, évidemment, nous la représentons de manière masculine, mais dans la Bible, ce n'est pas le cas. Certes, si Dieu peut être père à la manière masculine, il est aussi père à la manière féminine. Et d'ailleurs, le mot miséricorde, rahamim en hébreu, vient de rehem, l'utérus. Or, je ne sache pas que les hommes aient des utérus. Bien que, on sait jamais aujourd'hui, avec les idées bizarres qui courent, mais enfin bref, en tous les cas, pour l'instant, les hommes n'ont pas d'utérus. Et donc, Dieu, à sa miséricorde, sort de ce lieu de vie. C'est ça que ça veut dire. Et d'ailleurs, dans le Coran, c'est l'équivalent. On a la miséricorde de Dieu, vient aussi de l'utérus. Et pour les musulmans, quand je parle avec eux, ils me disent, c'est parce que quand Dieu nous pardonne, on reprend vie comme dans l'utérus de sa mère. Et donc, miséricorde, ça veut dire que Dieu a des entrailles, qu'on appelle des entrailles, évidemment, c'est ce fameux utérus, la matrice, le lieu où la vie se déploie. Et donc, Dieu est aussi père, mais il est aussi mère, au sens où nous le comprenons. Par exemple, si même ta mère pouvait t'abandonner, moi, Dieu, je ne t'abandonnerai pas, le prophète Isaïe, vous le savez, ça. Et donc, vous voyez, ce n'est pas des sentiments masculins, des sentiments féminins, c'est une paternité bien plus large que ce que nous connaissons. C'est pour ça que nos projections humaines ne sont pas adéquates quand on parle de la paternité de Dieu.
Michel Houpetit, grand merci.
Merci, merci Père. Merci à vous tous.
Ne manquez pas la semaine prochaine la suite de cette rencontre avec Mgr Michel Houpetit, qui est l'auteur du livre intitulé « Paternité et cléricalisme » paru aux éditions Artege. C'était « Un temps pour parler » avec l'abbé Denis Veilleux, à la recherche d'Annie Benz.